Chapitre 13. Anecdote. Chaque pays a sa queue rouge, qui résume dans une seule individualité la bêtise générale de la nation. Milan à Girolamo. Rome à Cassandre. Florence à Stentarelle. Naples à Monsignor Perelli. Monsignor Perelli est le bouc émissaire de toutes les sottises dites et faites à Naples pendant la dernière moitié du dernier siècle. Pendant 50 ans qu'il a vécu, Monsignor Perelli a défrayé de l'Asie, d'anecdotes et de quolibets la capitale et la province. Et depuis 40 ans que Monsignor Perelli est mort, comme on n'a encore trouvé personne digne de le remplacer, c'est à lui qu'on continue d'attribuer tout ce qui se dit de mieux dans ce genre. Monsignor Perelli, ainsi que l'indique son titre, avait suivi la carrière de la prélature et était arrivé au bas rouge, ce qui est une position en Italie. Puis, comme au bout du compte il était d'une probité reconnue, il avait été nommé trésorier de Saint-Janvier, place que, ses jocrisseries à part, il occupa honorablement pendant toute sa vie. Monsignor Perelli était de bonne famille. Aussi, comme nous l'avons dit, était-il parfaitement reçu en cour. Il faut dire qu'aux yeux du roi Ferdinand, comme aux yeux du roi Louis XIV, si un homme eût pu se passer d'aïeux, c'eût été un prêtre. Le pape, souverain temporel de Rome, roi spirituel du monde, n'est le plus souvent qu'un pauvre moine. Mais la question n'est point là. Monsignor Perelli était noble, et le roi Nasone n'avait pas même eu la peine de vaincre à son égard les répugnances que nous avons racontées à l'endroit du pauvre marquis de Sauval. Aussi sa majesté napolitaine, spirituelle et railleuse de sa nature, avait-elle vu tout de suite le parti qu'elle pouvait tirer d'un homme tel que Monsignor Perelli. Comme le charivari, qui tous les matins raconte un nouveau bon mot de Monsieur Dupin et une nouvelle réponse fine de Monsieur Sauzet, le roi Ferdinand demandait tous les matins, à son lever, « Eh bien, qu'a dit hier Monsignor Perelli ?» Alors, selon que l'anecdote de la veille était plus ou moins bouffonne, le roi, pour tout le reste de la journée, était lui-même plus ou moins joyeux. Une bonne histoire sur Monsignor Perelli était la meilleure apostille présentée au roi Ferdinand. Une fois seulement, il arriva à Monsignor Perelli de rencontrer plus bête que lui. C'était un soldat suisse. Le roi Ferdinand le fit caporal, le soldat bien entendu. Un ordre avait été donné par l'archevêque de ne laisser entrer dans les églises que les ecclésiastiques en robe, et des sentinelles avaient été mises aux portes des 300 temples de Naples avec ordre de faire observer cette consigne. Justement, le lendemain même du jour où cette mesure avait été prise, Monsignor Perelli sortait du bain en habit court, et n'ayant que son rabbin pour le faire distinguer des laïcs. Soit qu'il ignorât l'ordonnance rendue, soit qu'il se crût exempt de la règle générale, il se présenta avec la confiance qui lui était naturelle à la porte de l'église d'El Carmine. La sentinelle mit son fusil en travers. « Qu'est-ce à dire ?» demanda Monsignor Perelli. « Vous ne pouvez point entrer, » répondit la sentinelle. « Et pourquoi ne puis-je point entrer ?»« Parce que vous n'avez point de robe. »« Comment ?» s'écria Monsignor Perelli. « Comment ? Je n'ai point de robe. »« Que dites-vous donc là ? J'en ai 4 chez moi, dont 2 toutes neuves. » « Alors c'est autre chose, » répondit le Suisse, « passez. » Et Monsignor Perelli passa malgré l'ordonnance. Monsignor Perelli eut un jour un autre triomphe qui ne fit pas moins de bruit que celui-là. Il éclaircit d'un seul mot un grand point de l'histoire naturelle restée obscure depuis la naissance des âges. Il y avait réunion de savants au Studi, et l'on discutait, sous la présidence du marquis Arditi, sur les causes de la salaison de la mer. Chacun avait exposé son système, plus ou moins probable, mais aucun encore n'avait été d'une assez grande lucidité pour que la majorité l'adoptât, lorsque Monseigneur Perelli, qui assistait comme auditeur à cette intéressante séance, se leva et demanda la parole. Elle lui fut accordée sans difficulté ni retard. « Pardon, messieurs, » dit alors Monseigneur Perelli, « mais il me semble que vous vous écartez de la véritable cause de ce phénomène, qui, à mon avis, est patente. » « Voulez-vous me permettre de hasarder une opinion ?»« Hasardez, monsignor, hasardez » cria-t-on de toutes parts. « Messieurs, » reprit monsignor Perelli, « une seule question. Dites, d'où tire-t-on les harengs salés ?» de la mer. N'est-il pas dit dans l'histoire naturelle que ce cétacé se trouve dans les mers, et presque toujours par bandes innombrables? C'est la vérité.
C'est la vérité.
Eh bien donc, reprit Monseigneur Perelli, satisfait de l'adhésion générale, qu'avez-vous besoin de chercher plus loin?
C'est juste, dit le marquis Arditi.
Personne de nous n'y avait jamais songé. Ce sont les harengs salés qui salent la mer. Et cette lumineuse révélation fut inscrite sur les registres de l'Académie, où l'on peut encore la lire à cette heure, quoique je sois le premier peut-être qui l'ait communiqué au monde savant. Lors du baptême de son fils aîné, le roi Ferdinand fit un cadeau plus ou moins précieux à chacun de ceux qui assistaient à la cérémonie sainte. Monseigneur Perelli obtint dans cette attribution générale une tabatière d'or enrichie du chiffre du roi en diamant. On comprend qu'une pareille preuve de la magnifique amitié de son roi devint on ne peut plus cher au Monseigneur Perelli. Aussi cette bienheureuse tabatière était-elle l'objet de son éternelle préoccupation. Il était toujours à la poursuivre des poches de sa veste dans les poches de son habit, et des poches de son habit dans celles de sa veste. Un savant mathématicien calcula, en procédant du connu à l'inconnu, que Monseigneur Perelli dépensait par jour et par nuit 4 heures, 35 minutes, 23 secondes à chercher ce précieux bijou. Or, comme pendant les 4 heures, 35 minutes et 23 secondes qu'il passa par nuit et par jour à cette recherche, Monseigneur, ainsi qu'il le disait lui-même, ne vivait pas, c'était autant de secondes, de minutes et d'heures à retrancher à son existence. Il en résulta que, tout compte fait, Monseigneur Perelli eût vécu 10 ans de plus si le roi Ferdinand ne lui eût point donné une tabatière. Un soir que Monseigneur Perelli était allé faire sa partie de reversi chez le prince de C, et que, selon son habitude, le digne prélat avait perdu une partie de sa soirée à s'inquiéter de sa tabatière, il arriva qu'en rentrant chez lui et en fouillant dans ses poches, Monseigneur s'aperçut que le bijou était pour cette fois bien réellement disparu. La première idée de Monseigneur Perelli fut que sa tabatière était restée dans sa voiture. Il appela donc son cocher, lui ordonna de fouiller dans les poches du carrosse, de retourner les coussins, de lever le tapis, afin de se livrer aux recherches les plus minutieuses. Le cocher obéit, mais 5 minutes après, il vint rapporter cette désastreuse nouvelle, que la tabatière n'était pas dans la voiture. Monseigneur Perelli pensa alors que peut-être, comme les glaces de son carrosse étaient ouvertes, et qu'il avait plusieurs fois passé les mains par les portières, il avait pu, dans un moment de distraction, laisser échapper sa tabatière. Elle devait donc en ce cas se trouver sur le chemin suivi pour revenir du palais du prince de C à la maison qu'occupait Monseigneur Perelli. Heureusement, il était 2 heures du matin. Il y avait quelque chance que le bijou perdu n'eût point encore été retrouvé. Monseigneur Perelli ordonna à son cocher et à sa cuisinière, qui composaient tout son domestique, de prendre chacun une lanterne et d'explorer les rues intermédiaires, pavé par pavé. Les 2 serviteurs rentrèrent désespérés. Ils n'avaient pas trouvé vestige de tabatière. Monseigneur Perelli se décida alors, quoiqu'il fût 3 heures du matin, à écrire au prince de C, pour qu'il fît immédiatement et par tout son palais chercher le bijou dont l'absence causait au digne prélat de si graves inquiétudes. La lettre était pressante, et telle que peut la rédiger un homme sous le coup de la plus vive inquiétude. Monseigneur Perelli s'excusait vis-à-vis du prince de C de l'éveiller à une pareille heure, mais il le priait de se mettre un instant à sa place et de lui pardonner le dérangement qu'il lui causait. La lettre était écrite et signée, pliée, et il n'y avait plus que le sceau lorsqu'en se levant pour aller chercher son cachet, Monseigneur Perelli sentit quelque chose de lourd qui lui battait le gras de la jambe. Or, comme le docte prélat savait qu'il n'y a point dans ce monde d'effet sans cause, il voulut remonter à la cause de l'effet, et il porta la main à la basque de son habit. C'était la fameuse tabatière qui, par son poids, ayant percé la poche, avait glissé dans la doublure et donnait signe d'existence en chatouillant le mollet de son propriétaire. La joie de Monseigneur Perelli fut grande. Cependant, il faut le dire, si sa première pensée fut pour lui-même, sa seconde fut pour son prochain. Il frémit à l'idée de l'inquiétude qu'aurait pu causer sa lettre à son ami le prince de C. Et, pour en atténuer l'effet,
il écrivait au-dessous le post-scriptum suivant « Mon cher prince, je rouvre ma lettre pour vous dire que vous ne preniez pas la peine de faire chercher ma tabatière. Je viens de la retrouver dans la basque de mon habit. » Puis il remit l'épître à son cocher et lui ordonnant de la porter à l'instant même au prince de C, que ses gens réveillèrent à 4 heures du matin pour lui remettre de la part de Monseigneur Perelli le message qui lui apprenait à la fois qu'il avait perdu et retrouvé sa tabatière. Cependant, Monseigneur Perelli avait un avantage sur beaucoup de gens de ma connaissance. C'était une bête et non un sot. Il y avait en lui une certaine conscience de son infirmité d'esprit, d'où il résultait qu'il ne demandait pas mieux que de s'instruire. Aussi, un soir, ayant entendu dire au comte de M que vers l'Ave Maria il était malsain de rester à l'air, attendu que le crépuscule tombait à 7 heures, la remarque hygiénique lui resta dans la tête et le préoccupa gravement. Monseigneur Perelli n'avait jamais vu tomber le crépuscule et ignorait parfaitement quelle espèce de chose c'était. Pendant plusieurs jours, il eut des velléités de demander à ses amis quelques renseignements sur l'objet en question. Mais le pauvre prélat était tellement habitué aux railleries qu'éveillait presque toujours ses demandes et ses réponses, qu'à chaque fois que la curiosité lui ouvrait la bouche, la crainte la lui refermait. Enfin, un jour que son cocher le servait à table, « Gaétan, mon ami, lui dit-il, as-tu jamais vu tomber le crépuscule ?»« Oh, oui, monseigneur, répondit le pauvre diable, à qui, comme on le comprend bien, depuis 25 ans qu'il était cocher, une pareille aubaine n'avait pas manqué. Certainement que je l'ai vu. Et où tombe-t-il ? Partout, monseigneur. Mais plus particulièrement, dame, au bord de la mer. » Le prélat ne répondit rien, mais il mit à profit le renseignement et, avant de faire sa sieste, il ordonna que les chevaux fussent attelés à 6 heures précises. À l'heure dite, Gaétan vint prévenir son maître que la voiture était prête. Monseigneur Perelli descendit son escalier 4 à 4, tant il était curieux de la chose inconnue qu'il allait voir. Il sauta dans son carrosse, s'y accommoda de son mieux et donna l'ordre d'aller stationner au bout de la Villa Reale, entre le Boschetto et Mergelline. Monseigneur Perelli demeura à l'endroit indiqué depuis 7 heures jusqu'à 9 heures, regardant de tous ses yeux s'il ne verrait pas tomber ce crépuscule tant désiré. Mais il ne vit rien que la nuit, qui venait avec cette rapidité qui lui est toute particulière dans les climats méridionaux. À 2 heures, elle était si obscure que Monseigneur Perelli perdit toute espérance de rien voir tomber ce soir-là. D'ailleurs, l'heure indiquée pour la chute était passée depuis longtemps. Il revint donc tout attristé à la maison. Mais il se consola en songeant qu'il serait probablement plus heureux le lendemain. Le lendemain, à la même heure, même attente et même déception. Mais Monseigneur Perelli avait entre autres vertus chrétiennes une patience développée à un haut degré. Il espéra donc que sa curiosité, trompée déjà 2 fois, serait enfin satisfaite la 3e. Cependant, Gaétan ne comprenait rien aux nouveaux caprices de son maître qui, au lieu de s'en aller passer sa soirée comme il en avait l'habitude chez le prince de C ou chez le duc de N, venait s'établir au bord de la mer et, la tête à la portière, restait aussi attentif que s'il eût été dans sa loge de San Carlo, un jour de grand gala. Et puis Gaétan n'était plus tout à fait un jeune homme, et il craignait pour sa santé l'humidité du soir, dont, assis sur son siège, rien ne le garantissait. Le 3e jour arrivé, il résolut de tirer au clair la cause de cette station inaccoutumée. En conséquence, au moment où commençait à sonner l'Ave Maria, « Pardon, Excellence, dit-il en se penchant sur son siège de manière à dialoguer plus facilement avec Monseigneur Perelli, qui se tenait à la portière, les yeux écarquillés dans leur plus grande dimension. Peut-on, sans indiscrétion, demander à votre Excellence ce qu'elle attend ainsi ?»« Mon ami, dit le prélat, j'attends que le crépuscule tombe. J'ai attendu inutilement hier et avant-hier. Je ne l'ai pas vu malgré la grande attention que j'y ai faite, et aujourd'hui j'espère être plus heureux. » « Peste, dit Gaétan, il est cependant tombé, et joliment tombé, ces 2 jours-ci, Excellence, et je vous en réponds. »« Comment ? Tu l'as donc vu, toi ? Non seulement je l'ai vu, mais je l'ai senti. On le sent donc aussi. Je le crois bien qu'on le sent. C'est singulier, je ne l'ai vu ni senti. Étonné, dans ce moment même, eh bien, Eh bien, vous ne le voyez pas, Excellence.
Non.
Vous voulez le sentir?
Je ne te cache pas que cela me serait agréable.
Alors rentrez la tête entièrement dans la voiture.
M'y voilà.
Étendez la main hors de la portière.
J'y suis.
Plus haut, encore.
Là, bien.
Gaëtan prit son fouet et en cingla un grand coup sur la main de Monseigneur Perelli.
Le digne prélat poussa un cri de douleur.
« Eh bien, l'avez-vous senti ?» demanda Gaëtan.
« Oui, 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 très bien, »
répondit Monseigneur Perelli.
« Très bien, je suis content, très content, revenons chez nous. »«
Cependant, si vous n'étiez pas satisfait, Excellence, » continua Gaëtan,
« nous pourrions revenir encore demain. »«
Non, mon ami, non, c'est inutile. »«
J'en ai assez, merci. »
Monseigneur porta 8 jours sa main en écharpe, racontant son aventure à tout le monde et assurant que, malgré les premiers doutes, il en était revenu à la vie du comte de M., qui avait dit qu'il était fort malsain de rester dehors tandis que le crépuscule tombait, ajoutant que si le crépuscule lui avait été tombé sur le visage au lieu de le tomber sur la main, il n'y avait pas de doute qu'il n'en fût resté défiguré tout le reste de sa vie. Malgré sa fabuleuse bêtise, et peut-être même à cause d'elle, Monseigneur Perelli avait l'âme la plus évangélique qu'il fût possible de rencontrer. Toute douleur le voyait compatissant, toute plainte le trouvait accessible. Ce qu'il craignait surtout, c'était le scandale. Le scandale, selon lui, avait perdu plus d'âme que le péché même. Aussi faisait-il tout au monde pour éviter le scandale. Non pas pour lui, Dieu merci, Monseigneur Perelli était un homme de mœurs, non seulement pur, mais encore austère. Malheureusement, le bon exemple n'est pas celui que l'on suit avec le plus d'entraînement. Monseigneur Perelli avait, dans sa maison même, une jeune voisine, et dans la maison en face de la sienne, un jeune voisin qui donnait fort à causer à tout le quartier. C'était la journée durant, et d'une fenêtre à l'autre, les signes les plus tendres, si bien que plusieurs fois les âmes charitables de la rue qu'habitait Monseigneur Perelli le vinrent prévenir des distractions mondaines que donnait aux esprits réservés cet éternel échange de signaux amoureux. Monseigneur Perelli commença par prier Dieu de permettre que le scandale cessât. Mais, malgré l'ardeur de ses prières, le scandale, loin de cesser, alla toujours croissant. Il s'informa alors des causes qui forçaient les jeunes gens à passer à cet exercice télégraphique un temps qu'ils pouvaient infiniment mieux employer en louant le Seigneur. Et il apprit que les coupables étaient 2 amoureux, que leurs parents refusaient d'unir sous prétexte de disproportion de fortune. Dès lors, au sentiment de réprobation qui lui inspirait leur conduite, se mêla un grain de pitié que lui inspirait leur malheur. Il alla les trouver l'un après l'autre pour les consoler, mais les pauvres gens étaient inconsolables. Il voulut obtenir d'eux qu'ils se résignassent à leur sort, comme devaient le faire des chrétiens soumis et des enfants respectueux. Mais ils déclarèrent que le mode de correspondance qu'ils avaient adopté étant le seul qui leur resta après la cruelle séparation dont ils étaient les victimes, ils ne renonceraient pour rien au monde à cette dernière consolation. Dut-elle mettre en rumeur toute la ville de Naples? Monseigneur Perelli eut beau prier, supplier, menacer, il les trouva inébranlables dans leur obstination. Alors, voyant que s'ils ne s'en mêlaient pas plus efficacement, les 2 malheureux pêcheurs continueraient d'être pour leur prochain une pierre d'achoppement, le digne prélat leur offrit, puisqu'ils ne pouvaient se voir ni chez l'un ni chez l'autre pour se dire, loin de tous les yeux, ce qu'ils étaient forcés de se dire ainsi coram populo, de se rencontrer chez lui 1 heure ou 2 tous les jours, à la condition que les portes et les fenêtres de la chambre où ils se rencontreraient seraient fermées, que personne ne connaîtrait leur rendez-vous, et qu'ils renonceraient entièrement à cette malheureuse correspondance par signe qui mettait en rumeur tout le quartier. Les jeunes gens acceptèrent, avec reconnaissance, cette évangélique proposition, jurèrent tout ce que Monseigneur Perelli leur demandait de jurer, et, à la grande édification du quartier, parurent avoir, à compter de ce jour, renoncé à leur fatal entêtement. Plusieurs mois se passèrent, pendant lesquels Monseigneur Perelli se félicitait chaque jour davantage de l'expédient ingénieux qu'il avait trouvé à l'endroit des 2 amants, lorsqu'un matin, au moment où il rendait grâce à Dieu de lui avoir inspiré une si heureuse idée, les parents de la jeune fille tombèrent chez Monseigneur Perelli pour lui demander compte de sa trop grande charité chrétienne. Seulement alors Monseigneur Perelli comprit toute l'étendue du rôle qu'il avait joué dans cette affaire. Mais comme Monseigneur Perelli était riche, comme Monseigneur Perelli était la bonté en personne, comme toute chose pouvait s'arranger au bout du compte, avec une niaiserie de 2 ou 3 000 ducats, Monseigneur Perelli dota la jeune pécheresse, à la grande satisfaction du père du jeune homme, de la part duquel venait tout l'empêchement, et qui ne vit plus dès lors aucun inconvénient à la recevoir dans sa famille. La chose, grâce à Monseigneur Perelli, finit donc comme un conte de fées. Les deux amants se marièrent, furent constamment heureux et obtinrent du ciel beaucoup d'enfants. Maintenant, il me resterait bien une dernière histoire à raconter qui, à l'heure qu'il est, désopile encore immodérément la rate des Napolitains. Mais l'esprit des nations est chose si différente que l'on ne peut jamais répondre que ce qui fera étouffer de rire l'une fera sourciller l'autre. Conduisez Falstaff à Naples et il y passera incompris. Transportez Polichinelle à Londres et il mourra du spleen. Et puis nous avons une malheureuse langue moderne, si bégueule, qu'elle rougit de tout. Et même de sa bonne aïeule, la langue de Molière et de Saint-Simon, à laquelle je lui souhaiterais cependant de ressembler. Il en résulte que, tout bien pesé, je n'ose point vous raconter l'histoire de Monseigneur Perelli, laquelle fit néanmoins tant rire le bon roi Nazone, lequel, à coup sûr, avait au moins autant d'esprit que vous et moi en pouvons avoir, soit séparément, soit même ensemble. Et pourtant, elle lui avait été racontée un certain jour où il ne fallait rien moins qu'une pareille histoire pour dérider le front de sa majesté. On venait d'apprendre à Naples une nouvelle escapade des Vardelli. Comme ces honnêtes bandits m'offrent une occasion de faire connaître le peuple napolitain sous une nouvelle face, et qu'on ne doit négliger dans un des tableaux aucun des détails qui peuvent en augmenter la vérité ou l'effet, disons ce que c'était que les Vardarelli.